France Inter.
Le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Les États-Unis passent à l'heure Donald Trump, prestation de serment, puis discours à Washington à partir de 18h. Pour le nouveau président américain, une prise de pouvoir qui est bien plus qu'une alternance entre démocrates et républicains. Si nous ne faisons rien, nous allons être écrasés, dit à l'instant le Premier ministre français François Bayrou. Nous l'écouterons, nous serons également en direct des États-Unis. Nous irons aussi en Ukraine. Et puis à partir de 13h30, ce retour de Trump au pouvoir va-t-il encore accélérer la diffusion des fausses informations? Comment combler notre retard en matière d'intelligence artificielle? Clara Chapaz, la ministre déléguée à l'intelligence artificielle et au numérique, est notre invitée. 01 45 24 7000 pour vos questions. À suivre encore, le cessez-le-feu respecté dans la bande de Gaza. Ce matin, des Gazaouis déplacés par la guerre retrouvent leur maison.
Nos morts se réjouissent certainement de la fin de la guerre. Alors, je me réjouis, moi aussi. Pourquoi je n'aurais pas le droit d'être heureux? Les gens sont abattus, mais ils ne voient pas que la vie nous offre une chance unique de retourner chez nous à Gaza. C'est chez nous et nous allons revivre chez nous.
Reportage. Dans quelques minutes, nous serons aussi à Besançon. La maire écologiste de la ville en appelle à l'État face aux fusillades. Et puis avec un comédien aux multiples talents, Simon Abkarian, en ce moment au théâtre et au cinéma. 13h45, notre feuilleton. Une semaine dans la vie de collégiens en pause numérique. Expérimentation menée en ce moment par 50 000 élèves.
C'est interdit parce qu'il y en a qui prenaient leur tel en cours.
Je sors à peine du collège que j'ai déjà mon téléphone dans la main pour dire que je suis accro.
13h50, c'est la France, les mots de nos régions pour parler de la grippe. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson, Didier Varro, Véronique Sanson et Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Il a beaucoup été question durant la campagne américaine des relations entre les hommes et les femmes. Donald Trump et ses influenceurs ont réussi à séduire les jeunes hommes en exaltant la figure de l'homme viril qui gagne beaucoup d'argent et se passionne pour des sports de combat comme le MMA. Ce discours trouve-t-il un écho en France? Pas vraiment. Si l'on en croit le dernier rapport du Haut Conseil à l'égalité, certes il constate que de plus en plus de jeunes Français trouvent qu'il est difficile d'être un homme face aux femmes, mais dans le même temps, 9 Français sur 10 considèrent que les hommes ont un rôle à jouer dans la prévention et la lutte contre le sexisme. Parole de jeunes Français rencontrés dans l'Est de Paris ce matin par William Delesseux.
Par rapport aux femmes, il y aurait plus de pression sur les épaules des hommes au cours de leur vie, estime Modelet à la sortie de son lycée.
Dans la vie de couple en général, on va beaucoup dire que c'est l'homme qui doit par exemple rapporter l'argent, faire certaines choses plus que la femme.
Mais le jeune homme constate qu'il est bien plus difficile au quotidien d'être une femme.
Elles ont plein d'autres problèmes que nous, on n'a pas. Se sentir en sécurité quand elles sortent, l'avortement par exemple, les questions sur la sexualité, etc. C'est des problèmes aussi.
D'après l'enquête du Haut Conseil à l'égalité, certains jeunes au masculin se diraient menacés par le féminisme. Béatrice se souvient de débats au sein de son lycée.
Ils n'arrivent pas vraiment à se mettre à notre place, on va dire. Pour moi, le féminisme, ça affecte pas du tout la vie des hommes, absolument pas. C'est juste quelque chose qui existe pour qu'on ait les mêmes droits que les hommes, qu'on ait la même vie sereine, on va dire, un peu.
Alors que faire contre le sexisme? Sur un terrain de sport du quartier, Victor aimerait par exemple que la notion de consentement soit mieux comprise par ses camarades.
Et je trouve que c'est hyper important d'en parler et que les hommes y comprennent. Que veut dire oui, que veut dire non? Enfin, c'est plutôt explicite en fait, mais il y a certaines personnes qui ne comprennent pas.
D'après le Haut Conseil, 9 Français sur 10 se disent favorables à un programme à l'école pour comprendre la sexualité et prévenir les violences de genre.
Reportage William Delesseux. Ce qui nous amène donc aux États-Unis. Il est un petit peu plus de 7h du matin à Washington, la capitale. Le jour est en train de se lever sur un monde nouveau. L'expression n'est pas trop forte si l'on en croit le Premier ministre François Bayrou qui s'est exprimé il y a quelques minutes sur cette prise de pouvoir aujourd'hui de Donald Trump.
Les États-Unis ont décidé d'une politique qui est une politique incroyablement dominatrice par le dollar, par la politique industrielle, par la captation de toute la recherche du monde et par la captation des investissements du monde. Et si nous ne faisons rien, eh bien notre destin est très simple, nous allons être dominés, nous allons être écrasés, marginalisés. Et c'est une décision qui ne tient qu'à nous, les Français et les Européens. Parce qu'évidemment, sans Europe, c'est impossible de le faire. En France, ça a une deuxième signification. c'est que nous ne pouvons nous ressaisir que si nous nous réunissons, si toutes les sensibilités compatibles, pas les mêmes, pas de soumission, pas d'alignement, mais si toutes les sensibilités compatibles acceptent de travailler ensemble.
Le Premier ministre François Bayrou qui s'est exprimé ce matin à l'occasion de ses vœux à Pau, la ville dont il est toujours le maire. Donald Trump, donc 78 ans, prêtera serment à 18h tout à l'heure avant de prononcer un discours à l'intérieur du Capitole. C'est le bâtiment qui sert de siège au Congrès, le pouvoir législatif américain, la même où ses partisans avaient semé le chaos il y a 4 ans. Refusant sa défaite, il a promis de gracier plusieurs centaines d'émeutiers dès ce soir. Bonjour Isabelle Labéry.
Bonjour.
Vous n'êtes pas au Capitole, mais vous vous trouvez devant la Capital One Arena. C'est la salle de basket de Washington. Près de 20 000 personnes vont prendre place à l'intérieur tout à l'heure pour suivre cette cérémonie. Mais tout le monde ne va pas pouvoir rentrer, Isabelle.
Ah non, dans la longue, très longue file d'attente qui serpente dans les rues de la capitale, il y a déjà beaucoup plus de monde que la salle ne peut en accueillir. Tania, institutrice dans l'Alabama, trumpiste de la première heure, avait déjà tenté sa chance hier pour suivre le dernier meeting de Donald Trump, sans succès. Alors, elle est revenue aujourd'hui habillée en combinaison de ski avec des gants assortis et ça fait longtemps qu'elle patiente.
Oh, in the queue, I've been here since 11 o'clock last night.
Depuis 23 heures hier soir.
Yes.
Vous avez dormi?
No, we haven't slept. Yesterday we waited for 4 hours.
Donc hier vous avez fait la queue pendant 4 heures, vous n'avez pas pu rentrer.
We put on much warmer clothing and we came back out.
Vous êtes allé à l'hôtel, vous avez pris des vêtements chauds et vous êtes revenu bientôt pour être là parmi les premiers. Et là, vous allez rentrer.
Yes, they say Trump will come at 3 o'clock, so we're excited for that.
Donc Trump devrait se montrer à 15h. Vous êtes très excité à l'idée de le voir et c'est la première fois que vous allez le rencontrer en personne.
This is definitely beautiful.
And I'm just really glad to share this moment, this occasion with my son.
Voilà, Tania qui explique vouloir faire de ce moment un vrai souvenir familial pour la vie.
Tout cela, Isabelle, dans des conditions de sécurité drastiques.
Oui, le centre-ville est complètement fermé à la circulation. Un mur de barrière noire a été érigé tout autour du Capitole et de la Maison-Blanche. Des grillages de plus de 2 mètres de haut qui sont vraiment posés les uns à côté des autres. Impossible à escalader. Il y a des checkpoints pour les voitures. Ça donne une atmosphère un petit peu particulière parce que en dehors des endroits où les gens se rassemblent, les rues sont étrangement et complètement vides. 25 000 policiers et militaires ont été déployés. C'est impressionnant et pourtant ce dispositif est moins important, en tout cas moins visible qu'il y a 4 ans après l'assaut des partisans de Donald Trump contre le Capitole.
Et on entend l'impatience des Trumpistes derrière votre micro, Isabelle Labéry, en direct devant le Capital One Arena à Washington avec les moyens techniques de Benjamin Reyes. Alors des milliers de partisans de Trump dans une ville qui a voté à 92% pour la démocrate Kamala Harris. Voilà qui tranche. Donald Trump qui, avant de rejoindre le Capitole, aura ce matin un dernier entretien avec l'encore président pour quelques heures, Joe Biden. Bonjour Nicolas Taillard.
Bonjour.
Vous aussi, vous êtes présent à Washington pour nous faire vivre cette investiture. À quoi va ressembler cet étrange échange Trump-Biden? C'est une tradition?
Alors une tradition, oui, mais je suis tenté d'ajouter tradition quand Donald Trump l'emporte, parce que lorsqu'il est défait, comme ce fut le cas il y a 4 ans, les coutumes républicaines finissent aux oubliettes. 2 semaines après l'assaut du Capitole, le milliardaire avait boudé la passation de pouvoir, et d'ailleurs Kamala Harris l'avait rappelé dans son discours de défaite en novembre dernier, insistant sur la nécessité d'assurer une transition pacifique, en sous-entendant sans ambiguïté que son rival n'avait pas eu cette élégance. Si les équipes de Biden et Trump ont prouvé dernièrement leur capacité à travailler ensemble, en particulier sur le dossier du Proche-Orient. On imagine l'atmosphère assez fraîche tout à l'heure à la Maison-Blanche, à l'image du froid qui a enveloppé la ville. Les deux hommes doivent y partager un thé et la potion risque d'être amère pour un Biden au crépuscule de sa vie politique qui devra supporter le regard triomphant du milliardaire qui n'a jusqu'ici jamais manqué une occasion de l'humilier publiquement.
Plus tard donc dans la journée, Nicolas, Donald Trump va prêter serment et puis il va aussi prendre aujourd'hui et dès maintenant des décisions sous forme de décret.
Et il sera sans doute question de frontières à protéger sur le plan commercial avec l'instauration de nouvelles taxes douanières, avec surtout cette promesse répétée ces derniers jours de mettre en place ce que Trump décrit comme le plus grand programme d'expulsion de l'histoire américaine, des opérations visant des immigrés clandestins. Elles pourraient débuter dès ce soir ou demain mardi dans plusieurs villes du pays avec des patrouilles de la police des frontières. Décision immédiate attendue aussi sur l'énergie, avec des normes environnementales probablement balayées pour favoriser les forages. Le 47e président américain a prévu de mettre en scène la signature de ses executive orders applicables immédiatement. Oubliez les 100 jours, Donald Trump promet lui de surfer sur son état de grâce dès les 100 premières heures de son deuxième mandat.
Nicolas Théillard, merci à vous avec les moyens techniques de Geoffrey Marianne. Alors pas question pour les grandes marques américaines d'être absentes de ce moment. Coca-Cola a présenté il y a quelques jours un Coca Light spécial investiture. Et puis, il y a les milliardaires qui financent la fête et espèrent ainsi s'atterrir les bonnes grâces du nouveau président. Au premier rang desquels, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, Mark Zuckerberg pour Meta, ou bien encore Elon Musk qui devient également ministre. Dans ce contexte, l'ONG Oxfam publie aujourd'hui son rapport annuel et elle souligne qu'en un an, le monde compte 200 nouveaux milliardaires à l'origine des fortunes souvent héritées. Et ces milliardaires empêchent la lutte contre les inégalités, souligne le directeur général d'Oxfam, qu'a rencontré Mathilde Dehimi.
Amitabh Béhar égrène intarissable les statistiques. 4 nouveaux milliardaires chaque semaine de 2024, explique le directeur général d'Oxfam. Une fortune qui augmente 3 fois plus vite en un an. Rien d'étonnant alors à les retrouver autour de Donald Trump.
Vous avez 13 milliardaires dans l'administration de Donald Trump et ils vont certainement faire pression pour des politiques qui vont renforcer encore la concentration de leurs richesses.
Avec cette crainte de voir les discussions déjà compliquées sur la taxation mondiale des ultra-riches ralentir au G20 avec l'arrivée de Trump, dit Amitabh Béhar.
Le fait que le G20 ait avancé sur la taxation des super-riches est une évolution extrêmement positive et il est important que cette dynamique continue.
Plus de justice fiscale permet de réduire les inégalités sociales, rappelle Cécile Duflo, directrice Oxfam France. Mais il y a désormais une autre dimension, dit-elle.
C'est pas seulement que les milliardaires contribuent à l'élection de tel ou tel dirigeant, mais c'est qu'ils fabriquent tel ou tel dirigeant. Notre alerte, elle est sur le risque qui pèse sur nos démocraties.
Pour donner un ordre de grandeur, selon elle, les 50 milliards d'euros d'économies à trouver pour réduire le déficit de la France correspondent à 10% de la fortune des 47 milliardaires français.
Alors, les conséquences de cette arrivée au pouvoir de Donald Trump seront considérables. Conséquences économiques, notamment le Bitcoin, par exemple, la monnaie numérique, a battu son record ce matin, dépassant la barre des 109 000 dollars. Trump promet des politique favorable pour ce secteur. Et puis il y a la lutte contre la désinformation, contre la propagation des fausses nouvelles. Clairement pas la priorité de Trump et de son nouveau ministre Elon Musk, le propriétaire du réseau social X. Bonjour Timur Öztürk.
Bonjour Jérôme.
Plusieurs collectivités locales françaises envisagent ou ont déjà quitté X ces derniers jours.
Oui, c'est le cas de la région Bretagne par exemple. Compte X désormais inactif. Son président socialiste, Loïc Chesnais-Girard, se prive de 115 000 abonnés.
Pour les élus, c'était une chance extraordinaire, mais aujourd'hui nous sommes face à un modèle qui abîme les libertés individuelles, qui nie la vérité de la science. À partir de là, il faut que chacun assume en conscience son choix, j'assume le mien.
Choix partagé à droite par Franck Leroy, président LR de la région Grand Est, inquiet du récent soutien d'Elon Musk à l'extrême droite allemande.
Aujourd'hui, c'est devenu un instrument piloté par son propriétaire pour affaiblir un certain nombre de régimes démocratiques et qui nous dit que demain, aux prochaines élections locales, départementales, régionales ou nationales, on n'aura pas une influence externe sous la forme de démarches de propagande comme on le vit en ce moment en Allemagne.
Mais tous ne partagent pas cette décision, comme le député insoumis du Bas-Rhin, Emmanuel Fernandez, interrogé par Antoine Ballandra d'ici Alsace.
Dans cette logique, il faudrait aussi quitter Facebook et à la fin, on aurait des raisons de quitter tous les réseaux sociaux. Je crois qu'il faut continuer d'occuper tous les terrains, et y compris pour lutter contre l'extrême droite et contre le projet d'Elon Musk.
Du côté du gouvernement, quitter X n'est pas d'actualité. On ne peut pas se priver d'un tel outil de communication, explique Sophie Prima, la porte-parole de l'exécutif.
Merci Timur Öztürk, on en reparle dans un quart d'heure avec notre invitée, la ministre déléguée en charge de l'intelligence artificielle et du numérique, Clara Chapaz. J'ajoute que des politiques français sont présents sur place. À cette investiture, le leader de Reconquête, Éric Zemmour, la députée européenne du même parti, Sarah Knafo, ou encore le maire Rassemblement National de Perpignan, Louis Alliot, avec deux autres élus de ce parti. Autre changement attendu avec cette investiture, sur la politique étrangère américaine. Ses premiers effets se sont fait sentir ce week-end au Proche-Orient, avec l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Nous serons à Gaza dans un instant. Et puis il y a l'Ukraine. Les armes pourraient s'y taire dans les prochains mois, car Donald Trump a prévenu, il veut réduire considérablement l'aide apportée aux Ukrainiens. Comment les habitants envisagent-ils cette perspective de paix, même dictée par les Russes? Nos envoyés spéciaux, Claude Guibal, Alexandre Abergel et Yachar Fazilov, se sont rendus sur le front Est, où se joue une bataille pour la ville de Pokrovsk. La population est en passe d'être évacuée.
Hier, on lui a dit « Demain, on t'évacue ». Et Olena, 83 ans, a pris ses papiers, quelques vêtements, noué un fichu jaune sur sa tête, attrapé sa canne et elle a quitté son village tout près de Kourakové.
Là-bas, c'est affreux. C'est tellement la guerre. Ce qu'il y a dans ma tête, là, vous ne pouvez pas savoir. Le bruit dans mes oreilles, les bourdonnements et mon cœur. Oh là là. Mon Dieu.
Vitya, 65 ans, le fils d'Olena, est sonné.
J'ai vécu tellement de choses. J'étais sous les drones, on est resté 3 jours cachés sous terre. On ne pouvait même pas sortir pisser dans la cour. Voilà ce que j'ai vécu.
Olena a laissé une vie entière derrière elle, sa maison, les poules, le petit potager qui lui permettait de vivre avec sa maigre retraite d'ouvrière agricole. Cette nuit, elle la passera au centre de réfugiés de Pavlograd. Demain, elle ne sait pas où elle dormira ni où elle sera envoyée.
Poutine, il ne va pas s'arrêter. Jamais. Pas avant d'avoir tout écrasé. L'espoir, il ne repose que sur Trump. Il a dit « Je ne donnerai pas un sou à l'Ukraine ». Eh bien, s'il ne donne plus d'argent, la guerre s'arrêtera.
Et tant pis si cela veut dire vivre sous occupation russe, que la guerre s'arrête à tout prix, semble aujourd'hui son seul horizon.
Claude Guibal en Ukraine pour Inter. Là, le cessez-le-feu a donc débuté hier entre le mouvement islamiste Hamas et l'armée israélienne et la trêve tient pour l'instant après le retour hier de 3 otages israéliennes enlevés dans le sud du pays le 7 octobre. Israël a relâché ce matin 90 détenus palestiniens. Les Gazaouis, eux, peuvent retrouver pour certains leur maison. Comment vivent-ils ces premières heures sans bombardement? C'est un reportage de Thibault Lefebvre, notre correspondant à Jérusalem, et Rami Al-Maghari dans la bande de Gaza.
L'accord de trêve prévoyait le retour des près de 2 millions de déplacés pour samedi prochain. Ils n'ont pas attendu pour remonter vers le nord, en état de siège jusqu'à hier matin. Une file ininterrompue d'hommes à gare, quelques femmes et des enfants sur des routes sablonneuses au milieu d'un paysage apocalyptique. Hassan sait que l'artillerie israélienne a détruit sa maison. Il cherche maintenant la dépouille de son fils.
Mon cœur est empli de tristesse et de chagrin. Je me sens oppressé. Il y a les morts et les blessés à Gaza, mais il y a aussi les portés disparus, comme mon fils. Depuis 7 mois, j'ignore où il est. Je suis dévasté.
Hassan est venu avec son autre fils, Bilal. Lui a eu la chance de pouvoir partir à temps. Un déplacement forcé et aujourd'hui un retour anticipé avec la volonté ferme de se projeter et de reconstruire sur les décombres.
Nos morts se réjouissent certainement de la fin de la guerre. Alors, je me réjouis, moi aussi. Pourquoi je n'aurais pas le droit d'être heureux? Les gens sont abattus, mais ils ne voient pas que la vie nous offre une chance unique de retourner chez nous à Gaza. C'est chez nous et nous allons revivre chez nous.
Selon le bureau des médias du Hamas, 11 000 disparus sont aujourd'hui toujours sous les gravats.
Je reviens à ces 90 détenus palestiniens libérés la nuit dernière dans le cadre de cet échange. Ils ont été acclamés à la sortie de la prison par une foule de Palestiniens en liesse. L'extrême droite israélienne est très critique vis-à-vis de leur libération. L'un de ses partis a même quitté la coalition dirigée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. C'est vrai, cet accord est très douloureux, a reconnu ce matin sur Inter l'ambassadeur israélien en France, Joshua Zarka.
En grande partie, c'est des terroristes. Mais vous savez, qu'est-ce que le Hamas veut libérer? Ils ne veulent pas libérer des étudiants, ils ne veulent pas libérer des civils ou des gens du Fatah. Ils veulent libérer des gens qui ont du sang sur les mains pour prouver qu'ils libèrent leur propre personne. Alors donc c'est terrible. C'est donc un accord qui est très difficile à avaler en Israël parce que on voit ce qu'on libère de l'autre côté. Vous savez, la dernière fois qu'on a fait un accord avec le Hamas, c'était l'accord Gilad Shalit. Mmh. Et Gilad Shalit, dans cet accord, Yahya Sinwar a été libéré.
En 2011-2012,
voilà, Yahya Sinwar a été libéré. Yahya Sinwar, si je vous rappelle, est l'architecte du 7 octobre.
Joshua Zarka, au micro de Sonia Devillers. Alors, en grande partie, ce sont des terroristes, dit l'ambassadeur d'Israël en France. Que sait-on de leur profil, Valérie Krova?
Ce sont essentiellement des femmes, 69 exactement, et des adolescents au nombre de 21. La grande majorité avait été arrêtée après le massacre du 7 octobre et purgeait des peines courtes, à l'exception de Nawal Fatiha. Cette jeune femme de 23 ans avait été condamnée à 8 ans de prison pour avoir poignardé un Israélien à Jérusalem, selon le quotidien Haaretz. Les autres étaient en attente de jugement ou en détention administrative. Héritée du mandat britannique, cette procédure permet aux autorités israéliennes d'incarcérer toute personne jugée dangereuse, sans charge et sans limite de temps. C'était le cas d'Abla Abdelrassoul, la doyenne âgée de 68 ans, ainsi que Khalida Jarar, la plus connue des prisonnières relâchées. Membre de la direction du Front populaire de libération de la Palestine, classée terroriste par les États-Unis et l'Union européenne, elle n'a cessé de faire des allers-retours entre Ramallah et les prisons israéliennes. En 2021, Israël lui avait refusé une permission humanitaire pour assister aux funérailles de sa fille.
Précision signée Valérie Krova.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Trois commerces mitraillés en seulement 7 jours à ce stade. Pas de lien entre ces trois affaires, mais de quoi installer un climat de peur pour les commerçants de l'agglomération de Besançon. Dernier fait en date, dans la nuit de vendredi à samedi, un restaurant de grillade, cible de tirs qui ont laissé plusieurs impacts de balles sur la façade et les vitrines. Heureusement, aucune victime à déplorer, mais la maire de Besançon, l'écologiste Anne Vigneault, s'inquiète de ces épisodes à répétition. Elle en appelle à l'État et elle a été en partie entendue ce week-end, Léa Giraudeau.
Elle dénonce des tirs d'intimidation de la part d'un système mafieux, des mafieux qui seraient en train de prendre en otage la population. Anne Vigneault appelle à une politique nationale forte et engagée avec des moyens supplémentaires et notamment des renforts de la police nationale, des enquêteurs et une police scientifique renforcée. Un souhait exaucé, en tout cas pour ce qui concerne les renforts. La préfecture du Doubs a annoncé le déploiement de la CRS 83 à Besançon. 80 CRS avec pour mission d'aider les policiers de Besançon et de multiplier les opérations de contrôle et de sécurisation dans différents quartiers de la ville. 40 étaient d'ailleurs sur le terrain dès samedi soir. La maire remet également en cause la politique française en matière de lutte contre la drogue. Mais pour l'heure, on ne sait pas si ces trois affaires sont liées entre elles et si elles ont à voir avec le trafic de stupéfiants.
Léa Giraudeau, ici Besançon, autre élu écologiste à faire parler de lui aujourd'hui. Le sénateur et ex-candidat à l'élection présidentielle, Yannick Jadot, qui annonce sa candidature aux élections municipales à Paris. Ce sera au printemps 2026. Bonjour Claire Flochel.
Bonjour.
La succession d'Anne Hidalgo, l'actuel maire de Paris, cette succession aiguise décidément les appétits à gauche.
Oui, avec la candidature de Yannick Jadot, il y a déjà 4 candidats à gauche à plus d'un an de l'élection. Un chez les écologistes donc, mais aussi 2 socialistes, le sénateur Rémi Féraud soutenu par la maire de Paris et le député Emmanuel Grégoire, ex-bras droit d'Anne Hidalgo avec qui il est en froid, ainsi qu'un communiste, le sénateur Yann Brossat, ancien adjoint à la mairie de Paris. Et Yannick Jadot, dans sa déclaration de candidature, salue l'héritage d'Anne Hidalgo et se propose pour porter le rassemblement face à une droite unie derrière Rachida Dati, l'actuelle ministre de la Culture et maire du 7e arrondissement qui rêve de succéder à Anne Hidalgo. Un rassemblement qui ne peut être fait par quelqu'un de l'ancienne majorité, explique un proche de l'écologiste. Sa priorité absolue, rendre la capitale plus accessible aux classes moyennes et populaires. Dans l'entourage de la maire de Paris, on lui souhaite un peu ironiquement bonne chance pour la primaire des Verts. Car juge-t-on, Yannick Jadot n'a pas montré un grand intérêt depuis toutes ces années pour la vie parisienne. Il y a des candidats écologistes qui ont déjà beaucoup plus travaillé, indique un proche d'Anne Hidalgo, comme Fatoumata Koné, la présidente du groupe écologiste au Conseil de Paris, ou David Béliard, tête de liste des Vert en 2020 et adjoint de la maire de Paris.
Merci Claire Flochel. À l'agenda politique de ce lundi, l'examen cet après-midi à l'Assemblée du projet de loi d'urgence pour Mayotte. Premier texte du gouvernement Bayrou à être débattu dans l'hémicycle. Mayotte où les enseignants et les élèves ont fait leur rentrée ce matin. 115 000 élèves concernés, mais tous n'ont pu rejoindre leur établissement. Des systèmes de rotation d'élèves dans les classes ont été mis en place. Certains cours sont diffusés également sur Mayotte la première. J'ai tout donné et même trop donné, les mots du tennisman français Gaël Monfils, éliminé ce matin en huitième de finale de l'Open de tennis d'Australie. Monfils, 38 ans, a dû abandonner face à l'Américain Ben Shelton. Et lui est actuellement à l'affiche au cinéma, à l'affiche du film Le Quatrième Mur. Mais on le retrouve également au théâtre. Le comédien Simon Apkarian qui propose Nos âmes se reconnaîtront-elles. Nouvelle pièce très attendue au théâtre des Amandiers de Nanterre. Hélène et Ménélas, deux héros de la mythologie grecque, prennent vie dans cette pièce. Simon Apkarian qui clôt ainsi, Stéphane Capron, une trilogie sur ce couple.
C'est comme une obsession pour Simon Apkarian. Il vit avec ses personnages depuis des années. Il avait envie d'y revenir une dernière fois avec ce récit sous la forme d'un grand poème à deux voix où il est surtout question d'amour et de pardon.
Je m'intéresse à l'intimité des gens, leur humanité, par le biais de la poésie, par le biais de la littérature, par le biais du théâtre, par le biais du cinéma. Je pense que ça fait sonner tous les endroits de l'acteur et de l'actrice. Et puis après, pour re-raconter différemment la chose, un peu déjouer la version officielle de dire que Hélène c'est une putain, que de dire que l'autre c'est un niais. Puis il y a plein de raisons inexpliquées et qui resteront inexpliquées.
Simon Apkarian a écrit le rôle d'Hélène pour Marie-Sophie Ferdan, qui donne vie à un personnage d'une force incroyable.
Là où il est audacieux, Simon, c'est qu'il donne accès à l'intimité de statut sur lequel on a projeté des choses pendant des siècles. Une jolie dame infidèle et puis un monsieur éploré qui du coup sort son glaive. Et puis lui, il rentre à l'intérieur de la statue et il fait battre les cœurs. Je pense que ça parle de tout temps. C'est quoi le rapport homme-femme? C'est quoi l'amour, le désir et le combat qu'on se livre quand on s'aime?
La langue ciselée de Simon Apkarian, soutenue par la musique et les mélodies envoûtantes de deux musiciens kurdes, donne lieu à un face-à-face d'une grande tension entre ces deux comédiens.
Nos âmes se reconnaîtront-elles de Simon Apkarian? C'est jusqu'au 2 février au théâtre Nanterre, Amandier. Puis petite précision sur la rentrée scolaire à Mayotte, rentrée des professeurs uniquement aujourd'hui pour les élèves. Ce sera dans une semaine, 13h27 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Sébastien Léas. Puis à 13h30, la ministre déléguée à l'intelligence artificielle et au numérique, Clara Chapaz, est notre invitée. Vos questions sur la désinformation, sur la régulation des réseaux sociaux, sur le développement de l'intelligence artificielle également. 01 45 24 7000. 13h45, notre feuilleton avec ses élèves en pause numérique. Expérimentation pour aider des collégiens à passer moins de temps sur leur portable. Nous serons près de Reims. 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Mathieu Avanzi, notre linguiste spécialiste du français de nos régions, et Frédéric Pommier. Bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Jérôme.
Mathieu, l'épidémie de grippe est particulièrement virulente cette année et cela vous a inspiré?
Tout à fait. Schnuggel, salut et achoum, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler des mots de la grippe.
Des mots qui peuvent servir en ce moment. Et avec vous Frédéric, un journaliste, un collègue.
Un ami, l'ami Didier Varro, directeur musical des antennes de Radio France, aux manettes de l'Hyper Weekend Festival qui se tiendra ce week-end à la Maison de la Radio. Avec lui, c'est Véronique Sanson que l'on écoutera avec sa chanson Amoureuse qui a bouleversé la vie de Didier Varro quand il l'a découverte à l'âge de 12 ans.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure.
Jeanne et François étaient enseignants. À leur retraite, ils ont voyagé aux quatre coins du monde. Mais leur plus beau souvenir sera d'avoir aidé 700 chercheurs à lutter contre la maladie. À l'Institut du cerveau, il n'y a pas que les chercheurs qui font avancer la recherche. Contre Alzheimer, Parkinson ou les AVC, vous aussi, faites un leg à l'Institut du cerveau.
Demandez notre brochure au 01 57 27 41 41 ou sur leg.institutducerveau.fr.
France 2, demain soir.
Combien ils étaient? Qui c'était? Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Tout ça, je le saurai jamais.
Soumission chimique, pour que la honte change de camp. Un film coup de poing et inédit porté par Caroline Darian, la fille de Gisèle Pellicot. Demain soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv.
France Inter, partenaire du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Du 30 janvier au 2 février, venez vivre la plus grande expérience de bande dessinée d'Europe à Angoulême. Une dizaine d'expositions immersives, la plus vaste librairie de BD et de manga au monde, en présence de plus de 2000 autrices et auteurs, des masterclass, des concerts et des animations surprenantes. Des aventures, des découvertes, des émotions, pour toujours plus de lectures passionnantes. Le Festival d'Angoulême, la vie en BD, en partenariat avec Quick, un événement France Inter.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Beaucoup de nuages pour cet après-midi.
Oui, entre les grisailles souvent persistantes qui concernent le nord et des remontées méditerranéennes qui touchent le sud, le ciel sera souvent chargé cet après-midi. Les nuages bas se maintiendront le plus souvent entre le nord du Poitou, l'Ille-et-Vilaine, le centre-Val de Loire, le bassin parisien, l'intérieur de la Normandie et la Picardie. Mais on verra quand même quelques coins de ciel bleu se dessiner. Des grisailles s'attarderont également sur le Bas-Rhin et entre le Val-de-Saône et le Lyonnais. Un petit front perturbé va apporter quelques pluies sur le nord aquitain et puis l'instabilité sera plus marquée sur les régions méditerranéennes, avec des averses pour la Corse, le Languedoc et l'Est de la Provence. Quelques averses pourront même déborder sur l'Auvergne. Et puis on trouvera quand même de belles éclaircies le long des Pyrénées, entre la Bretagne et les côtes normandes, ainsi que sur les hauteurs du Jura et des Alpes du Nord, ou encore sur le Grand Est. Mais le soleil sera parfois bien voilé. Une hausse des températures va s'amorcer. Les maximales auront quand même encore du mal à décoller, notamment sous les grisailles du Nord. Prévoyez 1 à 7 degrés sur une large moitié Nord et 8 à 15 degrés plus au Sud.
Merci Sébastien Léas, Météo France.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour Clara Chapaz.
Bonjour Jérôme Cadet, bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes depuis septembre dernier la ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. C'est la première fois que l'IA figure dans un intitulé d'un ministère français. Merci d'être avec nous. 01 45 24 7000 pour les auditeurs qui souhaitent vous interroger. Vous passez également via l'application France Inter. Clara Chapaz, est-ce que vous partagez le constat qu'a fait le Premier ministre François Bayrou il y a quelques minutes? Si la France et l'Union européenne ne font rien face à Trump, nous allons être écrasés, dit-il. Est-ce que vous partagez ce constat? Et être écrasé dans le domaine de l'IA et du numérique, puisque ce sont vos domaines de compétences, qu'est-ce que ça voudrait dire? Qu'est-ce qu'on risque?
Oui, aujourd'hui, Monsieur Trump, qui a été élu par les Américains, rentre en fonction. Donc, les États-Unis, c'est un pays allié. Mais ce qui m'interroge et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est exactement ce que vous venez de dire, la place du numérique dans tout ça. On sait que les États-Unis, dans le numérique, ont un certain nombre de très grandes entreprises. Il nous faut, en France, pouvoir accélérer, notamment en intelligence artificielle. Et je pense qu'on y reviendra parce qu'on a tout. Les talents, j'ai toute confiance dans le fait qu'on a tout le potentiel pour avoir aussi de très très grandes entreprises dans l'intelligence artificielle en France. Et c'est pour ça que je suis là.
Ça, c'est pour le volet compétition industrielle, que l'Europe ne soit pas sous domination américaine en matière de technologie. On va y venir. Il y a aussi la dimension information et protection de la démocratie. Le rapport annuel sur les risques mondiaux du Forum économique mondial nous dit « La désinformation et la mésinformation constitueront le principal danger à l'échelle de la planète au cours des deux prochaines années. » Est-ce que Trump et Musk au pouvoir à Washington, ça veut dire fausse nouvelle en pagaille sur nos réseaux sociaux, chez nous en France, dans les jours, dans les semaines qui viennent?
Alors, je comprends très bien cette question parce que il y a un certain nombre de sondages qui sont sortis là, dans les derniers jours qui montrent que les propos sur les réseaux, c'est la deuxième préoccupation des Français quand ils pensent à cette élection américaine. 6 Français sur 10 se posent cette question. Et ce que je veux leur dire, c'est qu'il faut qu'ils aient confiance. On a un cadre européen très ambitieux par une réglementation qui s'appelle le Digital Service Act. On pourra y revenir. Mais ce cadre, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ces réseaux sociaux sur lesquels des millions de Français s'informent tous les jours doivent respecter certaines règles. Et j'ai confiance dans la Commission européenne pour qu'elles soient respectées.
Il y a près de 2 ans maintenant qu'une enquête est ouverte contre Elon Musk et son réseau social X. Pour l'instant, il n'y a pas eu de sanctions de prononcer contre Elon Musk. Est-ce qu'on peut faire confiance aux autorités européennes pour légiférer, non pas pour légiférer, mais pour sanctionner si jamais Musk sort du cadre? Et s'il est avéré qu'il est sorti du cadre?
Dans votre question, il y a 2 choses. Il y a Musk et la personnalité d'Elon Musk, et il y a X, la plateforme dont il est à la tête. Je prends un tout petit peu de recul pour revenir du coup sur ce débat-là. La personnalité d'Elon Musk. je comprends qu'elle puisse choquer. Elon Musk a tenu un certain nombre de propos extrêmement vulgaires sur des chefs d'État, sur des patrons, sur un certain nombre de personnes.
Européens en l'occurrence, pas seulement, mais notamment européens.
Et donc, c'est choquant. Ces propos-là, ce n'est pas ma vision du monde, ce n'est pas mon projet. Je pense que d'ailleurs son projet est assez clair, il est ouvertement réactionnaire. Mais il est libre d'utiliser sa plateforme pour partager ses opinions. Il est libre d'exprimer ses opinions. La réglementation européenne, ce qu'elle demande en revanche, c'est de s'assurer que la plateforme est responsable pour que ces opinions-là, par exemple, ne soient pas particulièrement amplifiées et qu'il n'utilise pas sa propre plateforme pour amplifier ses opinions. Elle demande que, en ligne comme hors ligne, les contenus illicites, par exemple à cette antenne, je ne peux pas avoir de propos homophobes, de propos racistes, les mêmes lois s'appliquent en ligne. Elle demande aussi sur la désinformation ou la manipulation de l'information dont vous avez parlé, que les plateformes s'engagent à être responsables et à mettre en place des démarches pour lutter contre ces phénomènes. C'est des vrais phénomènes. Je veux dire, ce week-end, là, dans les derniers jours, il y a eu toute une polémique qui est montée sur les réseaux sociaux, sur TikTok en l'occurrence, pas sur X, sur le fait qu'on rentrerait dans un nouveau confinement. Ça a des conséquences réelles sur la vie des gens. Je veux dire, il y a un certain nombre de restaurateurs qui m'ont alerté en me disant « J'ai vu sur TikTok, est-ce qu'il va y avoir un confinement ? Est-ce qu'on doit se préparer ?»
Ça veut dire que TikTok
pas
ne fait
tout.
Pas le travail en termes de régulation.
Ça veut dire que la
comme X ne le fait pas quand de fausses informations circulent, y compris en France.
Ça veut dire que la Commission européenne, son rôle, c'est pas de dire « ça c'est vrai » ou « ça c'est faux », absolument pas. Son rôle, c'est de s'assurer que les plateformes sont responsables et mettent en place un certain nombre d'outils qui sont efficaces. Vous l'avez dit, sur X, il y a un certain nombre d'enquêtes en cours. Il y a une enquête notamment qui regarde la façon dont est effectuée la modération, l'efficacité des outils de modération sur X, notamment le fait d'utiliser la communauté pour modérer, contextualiser les contenus, apporter un certain type d'information. S'il s'avère que les résultats de cette enquête nous font penser que ces outils ne sont pas efficaces, s'il s'avère que les résultats de cette enquête nous font penser que Elon Musk utilise cette plateforme pour amplifier ses opinions politiques, nous sommes en infraction par rapport au DSA et il y aura des conséquences.
Et il y aura des sanctions, il y aura des sanctions économiques. Même si Donald Trump décroche son téléphone et appelle Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, en lui disant « Tu veux sanctionner Elon Musk ? Eh bien, moi, j'augmente les droits de douane contre tes voitures, contre tes spiritueux, contre tes produits de luxe, ou alors je vais augmenter votre contribution à l'OTAN. »
Je pense qu'il faut nous faire confiance. Il faut faire confiance, je veux dire, à nous, Européens. Il faut se faire confiance à nous-mêmes. Monsieur Musk, qui est patron du réseau X, il a déployé son réseau en Europe. En Europe, nous sommes 450 millions de consommateurs. Il y a plus de personnes sur X, sur Meta, sur ces réseaux sociaux, en Europe qu'aux États-Unis. Alors, j'aimerais bien entendre de la part de ces patrons, s'ils refusent de se mettre en règle, ce qu'ils vont faire avec ça. Est-ce que ce n'est pas intéressant pour eux d'avoir leur réseau dans l'Europe ? En Europe, on a des droits, on a des lois. Il s'agit d'un état de droit. Si les plateformes refuse le fait qu'on a un certain nombre de règles, je pense qu'on aura un plus gros problème que ça.
Vous n'avez pas le sentiment que le bras de fer est déséquilibré ?
Je n'ai pas le sentiment que le bras de fer est déséquilibré. J'ai l'impression qu'on a un cadre qui est très ambitieux, qui est parmi les plus ambitieux sur la régulation des réseaux sociaux, qui a été voté, je pense que c'est important de le rappeler, de façon transpartisane. Donc les personnes qui aujourd'hui ne seraient pas en accord sur ce cadre ou voudraient faire croire qu'il s'agit d'un cadre qui promeut un certain type d'opinion, je veux leur dire qu'ils auraient pu s'exprimer quand le cadre a été voté il y a 2 ans au Parlement européen. Ils ne l'ont pas fait. Donc ce cadre est très ambitieux, il est aussi transpartisan et il sera appliqué.
Marie nous appelle de Marseille. Bonjour Marie.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Oui, je ne comprends pas pourquoi l'Europe et la France ne sont pas déjà emparées depuis bien longtemps des réseaux européens qui existent, comme Blue Sky ou Mastodon, pour aider le grand public à sortir de Meta et des autres réseaux sociaux permanents. Je ne comprends pas qu'on ne soit pas déjà emparé. On m'a dit de finir par une question, donc c'est ça. Qu'est-ce que vous attendez pour qu'on s'empare de ces réseaux-là ? Vous pouvez inciter les jeunes à les utiliser, faire de la pub sur le service public pour en parler, plutôt que de parler de choses commerciales qui n'ont pas forcément toujours d'intérêt. Mais je ne sais pas, mettez-les en avant, quoi. Qu'est-ce que vous attendez pour qu'on sorte de ça ?
Merci voilà. Marie pour cette question. Clara Chappaz vous répond.
Merci Marie pour cette question. C'est très bien qu'on puisse parler de ça. Bien sûr, mon rôle en tant que ministre du numérique, c'est pas de faire la publicité de telle ou telle plateforme. En revanche, Le matin, je me réveille pas en me demandant qu'est-ce que Elon Musk a tweeté. Ça, franchement, j'en ai pas grand-chose à faire. Mais je me réveille tous les matins en me disant comment on peut accélérer en Europe. Et je crois que c'est vraiment là le cœur de la question. Si, il y a 20 ans, on avait eu un agenda technologique beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus déterminé, peut-être qu'on aurait en effet un certain nombre d'options qu'aurait la taille qu'ont ces plateformes, parce que c'est la taille qu'ont ces plateformes qui est aussi qui pose question et la régulation européenne regarde aussi cette question. Alors, par contre, ce que je veux vous dire, c'est que mon rôle, c'est pas de dire on va aller sur telle plateforme parce que elle respecte mieux nos règles. Non, non, non.
Donc les ministres ou les élus qui disent il faut quitter X aujourd'hui, ils sont dans le faux ?
J'ai beaucoup d'empathie pour les gens qui disent qu'ils quittent X aujourd'hui parce qu'ils se sentent mal à l'aise, parce qu'ils subissent certainement des attaques en ligne, de la haine en ligne. Ce sont des faits réels. Pharos mentionne qu'entre 2023 et 2024, les plaintes pour la haine en ligne ont augmenté de 20%, donc c'est réel. En revanche, mon rôle et le rôle du gouvernement, c'est pas de dire aux 5 millions de Français qui sont sur X, 5 millions de Français, c'est pas trop notre problème, et puis on va céder à la tentation de se replier sur des espaces qui nous conviennent mieux. Non, pas du tout. Mon rôle, c'est d'être là où sont les Français, de leur parler et surtout de s'assurer que ces plateformes, quelles qu'elles soient, elles respectent nos règles. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. Les plateformes qui sont utilisées par des millions de Français doivent être sûres et respecter nos règles.
Est-ce qu'on peut agiter la possibilité de sanctions et être dur avec Elon Musk et en même temps l'inviter à Paris, comme l'a fait le chef de l'État, pour le prochain sommet sur l'intelligence artificielle ? Tout cela après avoir expliqué, je cite Emmanuel Macron, qu'Elon Musk soutenait une internationale réactionnaire. Où est la logique ?
C'est exactement la même question, en fait. Est-ce que ne discute qu'avec des personnes qui partagent nos points de vue ? Et je l'ai clairement dit, Elon Musk a un point de vue très clair, des idées réactionnaires. Ce n'est pas mon projet, ce n'est pas le projet de ce gouvernement. Cependant, il faut que l'on puisse parler à tout le monde. Je pense que c'est extrêmement important. Le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, et je vais y revenir, c'est pas un dîner entre amis, c'est un sommet dans lequel on va pouvoir se réunir une centaine de chefs d'État, une centaine de chefs d'entreprise, une centaine de scientifiques sur l'intelligence artificielle ici à Paris pour leur montrer qu'en France, on est en avance sur l'intelligence artificielle.
On est en avance sur l'intelligence artificielle.
On a des entreprises exceptionnelles qui se développent parce qu'on mène une politique depuis 2018 en faveur de cette technologie. On a bien compris que cette technologie allait changer nos vies et on a toute la volonté pour continuer à accélérer. Mon projet...
Mais quel est l'intérêt d'inviter quelqu'un qui nous traite d'abrutis au fond et qui traite les dirigeants européens d'abrutis ?
Mais je pense que c'est extrêmement important qu'on puisse parler avec tout le monde. Je pense que vraiment, il ne faut pas remettre ça en cause. De la même façon que vous accueillez tous les points de vue sur cette antenne, je pense qu'il est notre devoir de parler avec chacun. Elon Musk est aussi un des entrepreneurs qui développe l'intelligence artificielle. Et à ce titre, il faut que nous puissions avoir tous les points de vue. Et c'est comme ça qu'on aura une vision très ambitieuse. Je veux dire, aujourd'hui, tout ce dont on discute sur les réseaux sociaux, c'est aussi une question de valeur. Le fait que des applications américaines respectent le cadre et les valeurs européennes. La meilleure façon de faire ça, c'est d'innover en Europe et de pouvoir soutenir nos solutions européennes. Moi, je ne suis pas anti-Musk. Ce que je veux être, c'est la ministre qui est pro-Mensch, pro-Cantor, pro ces personnes que peut-être vous ne connaissez même pas à l'antenne, qui aujourd'hui développent des entreprises formidables en intelligence artificielle. Je pense à Mistral, qui est une entreprise qui a des modèles aussi performants que ChatGPT, et pourtant on entend à longueur de journée parler de ChatGPT. Je pense à H, je pense
Alors
à QTI.
Vous parlez notamment
Toutes
de Mistral,
ces entreprises sont
voilà,
en France.
Et des entreprises françaises qui avancent dans l'intelligence artificielle. Question de Béatrice qui nous appelle de Chatou, pour vous Clara Chapaz. Bonjour Béatrice.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour. Oui, bonjour Madame Chapaz. Je voulais savoir, effectivement, vous avez parlé de Mistral. Je voulais savoir qu'est-ce qu'on peut faire, nous, au niveau européen ou même au niveau national, pour ne pas dépendre des gros serveurs américains, les gros data centers, qui hébergent justement toutes ces sociétés d'intelligence artificielle, dont Mistral d'ailleurs, puisque je crois que Mistral a passé un accord avec Microsoft. Et donc, pour ne pas dépendre vraiment d'eux, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à notre niveau.
Merci Béatrice pour cette question précise et informée. Clara Chapaz vous répond.
Cette question, elle est fondamentale et ça sera bien aussi l'objet de ce sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle le 10 et 11 février 2025. C'est non seulement de mettre en avant les solutions françaises, mais aussi de prendre un certain nombre de décisions ambitieuses. En ce qui concerne les infrastructures, nous aurons des annonces pour pouvoir s'assurer que les entreprises dont on parle ont accès à la capacité de calcul dont elles ont besoin ici en France. Parce qu'aussi, en France, nous avons un énorme atout sur l'intelligence artificielle. Nous avons les scientifiques dont j'ai parlé. Nous avons aussi une énergie verte, décarbonée, et ça c'est et stable. Et ça c'est un atout indéniable dans la course à l'intelligence artificielle, et il faut que nous puissions toujours renforcer nos infrastructures, renforcer le soutien à ces entreprises, et vous avez dit qu'est-ce qu'on peut faire, je terminerai par là, renforcer l'adoption. Et là, tout le monde a quelque chose à faire. Vous avez quelque chose à faire à cette antenne quand vous parlez de l'intelligence artificielle et que vous mentionnez un certain nombre d'entreprises américaines. Vous avez quelque chose à faire en tant que citoyen quand vous utilisez l'intelligence artificielle, de se tourner vers des solutions françaises. Elles existent. Vous avez cité Mistral, il y en a d'autres. Uh-huh. Parce qu'on peut tous contribuer à faire rayonner ces entreprises et à montrer et soutenir leurs talents.
Un dernier mot, Clara Chappaz. Depuis le 11 janvier, les sites pornographiques consultables en France doivent vérifier l'âge de leurs utilisateurs. Pas juste leur demander s'ils ont plus de 18 ans, mais le vérifier. Quasiment aucun de ces sites ne respecte cette obligation. Que comptez-vous faire ?
L'ARCOM mettra en demeure les sites qui ne respectent pas ces obligations. Dans le numérique, il y a plein de choses...
Mais quand ? Parce que c'est déjà le cas, ils ne respectent pas.
Dans le numérique, il y a plein de choses positives. Il y a aussi un certain nombre de dérives. Je serai très ferme face à ces dérives. La loi nous donne ce pouvoir, ou octroie ce pouvoir à l'ARCOM. À ceux qui disent qu'il n'y a pas de solution technique, je veux leur dire que ce n'est pas vrai. Nous avons réuni toutes les plateformes des solutions techniques pour qu'elles puissent se rencontrer, échanger sur la manière de déployer ces outils. Et il nous faut protéger l'exposition de nos enfants à ce type de contenu, et nous avons bien l'intention de faire respecter cette loi.
Merci Clara Chappaz, ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. Merci d'avoir répondu aux questions nombreuses aujourd'hui des auditeurs de France Inter. 13h45. Merci. Notre feuilleton, et il va vous intéresser, Clara Chappaz. Nous passons cette semaine avec des collégiens qui expérimentent ce qu'on appelle la pause numérique. Ils sont un peu plus de 50 000 partout en France depuis le début de l'année scolaire. Je vous rappelle le principe, ces collégiens laissent leur portable à l'entrée du collège, dans une boîte ou dans un casier. 200 établissements y participent, dont le collège Mont-d'Or. Nous sommes à Saint-Thierry, une commune au nord de Reims. 480 élèves. Victor Vasseur s'est rendu sur place. Premier épisode, c'est l'arrivée des élèves.
On prend notre clé, on ouvre notre casier, c'est normal, tout le monde sait le faire, je pense. Et je prends la pochette de mon téléphone, où il y a mon téléphone, et je la mets dans mon casier.
On dit quoi à son téléphone, là ?
Au revoir. Bonne journée.
T'es en quelle classe ?
Cinquième.
Ça veut dire que l'an dernier, tu faisais pas ça ?
Non, l'an dernier, je le gardais dans mon sac.
Oui, moi aussi.
Ça va, parce qu'on n'est même pas censé l'utiliser, mais je vois pas pourquoi ils ont fait ça, vu qu'on l'utilisait pas.
Ouais. Shaina, explique-moi comment ça se passe ce matin avec ton téléphone.
Il est dans mon casier, là.
Shaina, l'an passé, vous aviez le droit d'avoir le téléphone sur vous ?
Oui. Mais plus maintenant. Parce que c'est interdit, parce qu'il y en a qui prenaient leur ciel en cours, qui s'envoyaient des messages et tout.
C'est difficile de s'en séparer toute la journée ?
Oui, parce que c'est un des réseaux, etc. Et vu qu'on a l'habitude souvent, c'est compliqué, mais être avec ses copains et tout, on oublie un peu.
Et toi, tu le mets dans le casier, Jonathan ?
Non, moi je le mets pas dans mon casier, moi il est dans ma poche. Toi. Non, faut pas le dire, mais parce qu'on doit les poser dans le casier, mais moi je le fais pas.
Faut pas le dire, mais ça enregistre.
Enfin, je sors à peine du collège et j'ai déjà mon téléphone dans la main. C'est pour dire que je suis accro. Là, tout à l'heure, je vais rentrer chez moi, je vais prendre mon téléphone, je vais aller sur les réseaux, puis je vais allumer mon PC, puis je vais directement jouer. Je fais que ça de mes journées. Le week-end, je me lève à midi. Je sais, c'est pas besoin de dire la routine, mais je me lève, je déjeune, puis hop, je vais directement jouer. Ou il y a des fois, je sors, je rentre, et puis je vais jouer.
Je suis Sylvain Caïto et je suis le principal du collège du Mont-d'Or. C'est un collège de 480 élèves, donc à 10 km de Reims, plutôt collège semi-rural, avec une population plutôt favorisée. Dans la pratique, ce qui est conseillé aux élèves, c'est qu'ils laissent le téléphone à la maison. Beaucoup dorment avec leur téléphone dans la même pièce que là où ils dorment la nuit. Ils peuvent être réveillés par les sonneries, les notifications, et c'est là où on voit qu'ils sont très dépendants, en fait. Et puis au-delà de ça, c'est l'occasion pour nous, à chaque fois qu'un élève est surpris avec son téléphone, d'amorcer un échange avec lui sur tous les dangers que peuvent représenter le numérique à son âge, que ce soit les réseaux sociaux, les phénomènes d'accoutumance, etc. Et puis d'en parler aussi avec les parents. Et sur les quelques sorties qui ont eu lieu depuis le début d'année, où maintenant le téléphone est systématiquement interdit pendant les sorties, les enseignants ont noté qu'il y avait une plus grande attention des élèves pendant les sorties parce qu'ils n'avaient pas leur téléphone.
Donc ça, mine de rien, changeait quelque chose.
Oui, et puis encore une fois, ça nous permet de dialoguer plus avec les familles et même d'orienter nos échanges avec les familles du premier degré, ce qui jusque-là n'était pas le cas, donc globalement, oui, c'est positif. Et s'il y en a qui ne respectent pas la règle, le téléphone est confisqué, le téléphone est mis sous enveloppe et déposé dans le bureau du principal. On prévient systématiquement les parents, par le biais d'une information écrite, que le téléphone a été confisqué, mais dans tous les cas, on rend le téléphone en fin de journée.
Victor Vasseur pour ce feuilleton dans la Marne, la suite demain.
France Inter, le 13-14.
C'est la France à 13h49 le lundi. Nous sommes avec Mathieu Avanzi, notre linguiste spécialiste du français de nos régions. Mathieu, l'épidémie de grippe est particulièrement sévère cette année et les mots pour en parler changent selon les régions.
Tout à fait, Jérôme. Grippe, un mot qui signifie à l'origine saisir brusquement, parce que malgré ce qu'on dit, on n'attrape pas la grippe, c'est elle qui nous agrippe. Alors, au-delà du jeu de mots et de l'étymologie qui est correcte, ce qui m'a intéressé aujourd'hui, c'est l'un des nombreux symptômes du rhume, celui qu'on appelle plus couramment morve, chandelle ou encore ranouna. J'ai répertorié dans mes enquêtes des dizaines de variantes régionales pour ce concept. Je vous en donne quelques-unes. Le mot naze qu'on utilise dans la région de Lille se rattache au latin nasu. C'est ce même mot qui a donné le français « nez ». En Alsace et en Moselle, on a des variantes qui ont une même origine germanique, comme « schnougel »,« schnoudel » ou « schnoutre ». Sinon, il y a des mots qui viennent du latin « mucus », comme « moukir » en Gascogne, « mec » ou « mèche » dans le Languedoc, « mouk » à Perpignan. Enfin, il reste le mot « nick » en usage en Franche-Comté, qui se rattache à une interjection qui remonte à l'ancien français et qu'on entend encore dans l'expression un peu vieillotte « faire la nique », qui veut dire « se moquer de quelqu'un en faisant un signe de tête ».
Voilà, qui vient donc du rhume. Mathieu, qui dit grippe, dit éternuement. Justement, quand quelqu'un éternue, on a l'habitude de lui dire « à tes souhaits » ou « à vos souhaits ». D'où vient cette formule ?
Eh bien, figurez-vous que cette formule, elle remonte au Moyen-Âge, à une époque où l'éternuement n'avait rien d'anodin. Dans cette période, on considérait l'éternuement comme un signe annonciateur de maladie, voire pire, comme synonyme de peste. On pensait même que l'éternuement permettait à l'âme de quitter furtivement le corps et qu'il la laissait qui laissait la porte ouverte aux esprits malins. Alors pour conjurer le mauvais sort, on s'empressait d'articuler des formules protectrices du genre « que Dieu te bénisse ». Aujourd'hui, l'expression « à tes souhaits » est devenue une politesse courante et elle est utilisée pour souhaiter de manière involontaire une bonne santé à la personne qui éternue. D'ailleurs, dans certaines régions, on a conservé des variantes plus directes où le souci du bien-être de l'autre s'exprime de manière assez explicite. Dans les Alpes, il est courant de dire « santé » à quelqu'un qui éternue comme quand on trinque.
Oui, c'est ça.
Et en utilisant le mot « salute », les Corses et les Niçois ne font d'ailleurs que perpétuer une habitude bien ancrée chez leurs voisins italiens. En Alsace, enfin, on peut observer un phénomène d'emprunt identique, qu'ils parlent le dialecte ou non. Les Alsaciens peuvent asséner un « Gesundheit » à quelqu'un qui éternue, comme on le ferait en allemand.
Et on n'éternue pas de la même façon du région à l'autre.
Exactement, Jérôme. En préparant cette chronique sur les mots de la grippe, j'ai trouvé des sources qui affirmaient que même les onomatopées varient. La plupart des Français disent aujourd'hui « atchoum » quand ils éternuent, d'où le verbe « atchoumer ». Mais ça n'a pas toujours été le cas. Jusqu'au 19e siècle, on disait « atcha ». C'était un mot qui était relativement courant. Aujourd'hui, on peut encore l'entendre dans certains coins de la France. Dans l'Est, comme en Belgique, c'est plutôt la forme « atchi » qui domine, probablement sous l'influence des langues germaniques voisines, où l'on éternue en disant « hachi » avec un « h » aspiré. S'ajoute à cela quelques formes régionales plus confidentielles, comme le charmant « apichou » qu'on entendrait presque résonner sous la neige québécoise. Preuve que même en plein hiver, nos amis d'outre-Atlantique savent éternuer avec style.
À vos souhaits, cher Mathieu Avanzi, tous les lundis dans C'est la France. De C'est la France à C'est une chanson, votre invité aujourd'hui, Frédéric Pommier, en pleine santé. Il est journaliste, producteur, animateur radio. Il s'agit de Didier Varro.
Directeur musical des antennes de Radio France et créateur de l'Hyper Weekend Festival, dont la 4e édition se tiendra de vendredi à dimanche à la Maison de la Radio. Au programme, George A. Smith et l'Orchestre Philharmonique, Chili Gonzalez, Pierre Lapointe, Voyou, plus de 60 concerts, des créations, des rencontres. Et c'est d'une chanson de Véronique Sanson que Didier Varro a souhaité me parler, sa chanson « Amoureuse ».
La première fois que j'ai entendu « Amoureuse » de Véronique Sanson, je me souviens très précisément où j'étais, dans ma chambre de préadolescent. J'ai 12 ans à Grenoble, je suis en 5e, et j'écoute la radio et je zappe tout le temps, et tout d'un coup j'entends Véronique Sanson, amoureuse. Et à ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé en moi, mais il s'est passé un truc terrible, un peu métaphysique. Je suis resté interdit. Je n'ai pas pu parler pendant les 10 minutes qui ont suivi la diffusion de cette chanson. J'ai juste noté le nom de l'artiste. Et je dirais que mon destin s'est joué à ce moment-là. Peut-être que avant d'écouter Véronique Sanson, je n'aurais même pas oser rêver qu'un jour je pourrais peut-être faire ce métier de journaliste musical, de producteur, d'animateur de radio. Il y a un avant et un après, et puis en même temps il y a cette chanson qui m'a incroyablement saisi, ses premiers mots. Une nuit je m'endors avec lui, mais je sais qu'on me l'interdit, et je sens la fièvre qui me mord. Et quand elle dit qui me mord, il y a toute cette sensualité incroyablement incarnée, sans que j'aie l'ombre d'un remords. Je ne sais pas encore que je vais aimer les garçons, que ce sera compliqué, mais j'ai l'impression que Véronique Sanson racontait ma vie intime avant même que j'entre dans une vie amoureuse ou une vie sexuelle. Donc c'était incroyable, quoi. Ça a été un révélateur fou.
Une nuit, je m'endors avec lui. Qu'on nous l'interdit. Et je sens la fièvre qui me mord, sans que j'aie l'ombre d'un remords.
C'est en 1972 qu'est sortie cette chanson Amoureuse, Frédéric.
Oui, sur le premier album de Véronique Sanson, que Didier Varro est allé voir sur scène deux années plus tard, à l'âge de 14 ans.
J'étais tellement amoureux d'elle que j'ai presque fugué pour aller la voir en concert la première fois. Ça devait être en 1974 à la Bourse du Travail à Lyon. Je n'avais pas dit à mes parents que j'avais fait l'aller-retour pour aller voir Véronique Sanson, que j'avais attendu à la sortie du concert. Et pour moi, c'est à la fois la femme de ma vie. Si j'étais une femme, je voudrais être elle. Je trouve qu'elle est assez exemplaire dans sa manière fantasque et romanesque de mener sa vie, et puis dans sa force de création.
Quand il me serre tout contre lui, quand je sens que j'entre dans sa vie, je prie pour que le diable m'emporte.
Vous avez pensé à cette chanson parfois, après une nuit d'amour ?
Ah oui. Alors franchement, c'est une chanson qui, après l'amour, est totalement idéale. Et en 72, elle a cette voix cristalline d'une pureté absolue. Aujourd'hui, elle a baissé sérieusement la tonalité de la chanson. Mais avec une voix rocailleuse et une voix de blues, elle arrive encore à teinter cette chanson d'un érotisme sulfureux incroyable. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que je crois que je n'aurais jamais pu aimer un homme qui n'aimerait pas Véronique Sanson. Donc j'ai contaminé, si j'ose dire, tous mes amants et mon mari, qui sont tous tombés pour elle.
Et donc votre mari aime Véronique Sanson.
Voilà. Et le jour de notre mariage, d'ailleurs, il m'a fait la surprise de chanter du Véronique Sanson.
Et je ne suis plus d'ici. Je ressens la pluie du monde planète.
amoureuse, Véronique Sanson. C'était donc, Frédéric, le choix de Didier Varro.
Didier Varro, l'initiateur de l'Hyper Weekend Festival. Ce sera ce week-end à la Maison de la Radio et ça promet d'être hyper chouette.
Maison de la Radio et plus que jamais de la musique. Merci Frédéric Pommier et à demain pour C'est une chanson. Bonjour Mathieu Vidard.
Bonjour Jérôme Cadet.
Vous serez hyper sobre aujourd'hui ?
Oui, c'est ça, une histoire de la sobriété, j'allais le dire.
Des promesses, des promesses. À tout de suite.